Bonjour chères auditrices, chers auditeurs. L'équipe des Teens Prennent l'antenne vous souhaite la bienvenue dans notre nouvelle émission hebdo des étudiants. 30 minutes qu'on va passer avec vous sur PFM fréquence 99.9. Et le sujet de la semaine, c'est l'Europe. Nous allons taper débat sur l'Union Européenne avec Sarah, Alexis, Thomas et notre invité du jour, Madame Planquette. Mais avant de taper débat, on va d'abord commencer par les chroniques. Vous voulez commencer par quelle chronique ? On a la chronique de l'info, on a la chronique de ciné.
Bon, on va dire la mienne, le ciné.
Vas-y. Pas de problème, allez.
Bon pour le ciné.
Alors aujourd'hui, je vous présente comme film L'Ange blessé, qui prend place au Kazakhstan. C'est l'histoire de quatre adolescents qui ont tous des racines différentes. C'est-à-dire que, par exemple, nous avons Jaras qui... doit travailler pour nourrir sa famille par soi-même, etc. Pareil, Poussin, qui est un chanteur en herbe, qui va passer un concours et qui espère le gagner, mais bon, rien n'est gagné. Ça, c'est un film qui parle des difficultés à évoluer dans leur pays, et ils devront faire face à un destin des plus compliqués. Pour ce qui est de la musique, nous avons Red Hot Chili Peppers qui va sortir son prochain album en juin, qui va s'appeler Dark Esperance, je crois.
Tu crois ?
Bah ouais, je suis pas certain, moi je suis pas quelqu'un d'organisé. Et sinon, comme
événement... Ça me rappelle quelqu'un, je sais pas pourquoi.
mais qu'est-ce qu'il fout là alors ?
Tu veux parler toi ?
Et comme événement sur Arras, nous avons les Buddy Scat qui vont faire un concert le 20 mai à la Cité Nature. Ils font du blues, du jazz, tout ce qui est sympathique.
La Cité Nature qui est près de la piscine, c'est ça ?
Exactement.
Je vous propose qu'on passe après à la chronique de l'info. Alexis, t'es prêt ?
Toujours prêt. Bon, maintenant la chronique de l'info, donc toujours dans le cinéma, la 69e édition du Festival de Cannes, qui se déroule du 11 au 22 mai 2016, et son animateur Laurent Lafitte, qui a essayé à grands coups de blagues et de mise en scène de séduire le public, mais son humour ne plaît pas à tout le monde. Après, on a aussi le 49-3 utilisé pour faire passer la loi El Khomri, qui a provoqué de nombreuses manifestations depuis le jeudi 12 mai. On a aussi le nouveau maire de Londres, Sadiq Khan, qui est le premier maire musulman d'une capitale européenne, donc c'est une toute première. Les innovations, donc le train très grande vitesse, l'Hyperloop, qui arrive maintenant à faire 600 km en 30 minutes, donc Paris-Lyon en une demi-heure, ou Paris-Montpellier en 40 minutes, car il a réussi à dépasser le mur du son, donc à une vitesse de plus de 1000 km/h. On a aussi la composition qui a été donnée de l'Euro de foot, donc sans Benzema et Valbuena à cause de l'affaire de sextape, et Mamadou Sakho qui n'est pas présent car il a été contrôlé positif à un test antidopage. On a aussi de nouveaux noms sur les prêtres pédophiles américains. La liste continue à s'agrandir. Et la fameuse histoire du suicide en direct sur Periscope, donc Océane 19 ans qui s'est jeté sur les rails du RERC devant des centaines d'internautes, car son copain avait abusé d'elle. Mais bon, pour remonter un peu le moral, c'est le début du beau temps.
C'est cool, toi t'as les mots. Hein.
Ah bah ouais.
Bon, je propose maintenant qu'on commence le débat. J'ai quelques petites questions. Alors, pour amorcer... d'après vous, citoyens, pas encore citoyens européens, bientôt, on gagne plus ou moins à être citoyen européen ?
Bah, à vrai dire, être citoyen européen, c'est une opportunité pour tous ceux qui ont la citoyenneté européenne, étant donné que grâce à ça, on peut voyager très facilement.
Avec l'espace Schengen, ouais.
On a le bon passeport, entre guillemets, quoi.
Moi, je pense que ça dépend de comparer à quel pays. C'est-à-dire que comparé à un pays comme la Suisse, à part tout ce qui est donc au niveau voyage, douane, etc., les Suisses vivent quand même relativement bien. Tandis que comparé à un pays, par exemple, au Moyen-Orient, évidemment qu'on vit bien. Ça, c'est une évidence. Donc, évidemment, on gagne à être citoyen européen. Et bien sûr, il faut relativiser par rapport à où.
Les prochaines européennes sont en 2019, donc dans 4 ans. Est-ce que vous voterez aux prochaines européennes, sachant qu'on vote les députés européens?
Bah, moi, c'est simple. Hein. Les prochaines européennes, j'aurai encore 17 ans, donc je ne pourrai pas voter. Mais si je pouvais, je l'aurais fait, forcément.
Moi, personnellement, je n'aurais pas voté parce que je ne suis pas du tout assez renseigné sur tout ça. Et puis, de toute manière, une voix en plus ou en moins.
Bah, moi, je pense justement que, que je voterai parce que pour moi, ne pas voter, c'est justement laisser ma voix à quelqu'un que je pourrais ne pas aimer, tu vois. Au moins, je suis sûre que j'aurais tenté ma chance. Donc moi, je voterai, en étant informée, bien évidemment.
C'est vrai. Et madame, vous voterez, vous, aux prochaines européennes ?
Bien sûr, à chaque fois, toujours. C'est obligatoire. Enfin, c'est pas obligatoire, mais c'est nécessaire. Si on va pas voter, après, tu peux pas te plaindre.
C'est sûr. Mais bon, vu que je suis pas renseigné, j'aurais pas à me plaindre.
Ouais, mais t'as jusque 2019 pour te mettre à jour.
Bon, on va arrêter le petit affrontement. Je vous propose qu'on écoute DMX, la musique de Deadpool, le nouveau film. Enfin, il est plus en salle maintenant, je pense.
Il y a le Blu-ray qui est sorti avec le bêtisier, qui est mieux que le film, il paraît.
Merci pour ce commentaire. Je propose qu'on écoute. Yo, get it twisted. This rap is my mother. Not a game. What you heard is what you hearing. It's what you hearing. Listen. It's what you hearing. Listen. It's what you hearing. Listen. X gon' give it to you. What? Wait for you to get it on your own. X gon' deliver to you. Knock, knock. Open up the door. It's real. But the non-stop pop out from stainless steel. Go hard getting busy with it. But I got such a good heart that I make the mother wonder if you did it. Damn right. And I do it again. Cause yeah. I am life. So I got to win. Break bread with the enemy. No matter how many cats I break bread with, I break who you send to me. You motherfucker never wanted nothing but your life saved. That's on a life day. I'm getting down. But won't be the one ending up on his knees. Please, if the only thing you can't steal came out to play, stay out my way. Mother, first we gonna rock, then we gonna fall. Then we let it pop, don't let it go. What? X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. First we gonna rock, then we gonna fall. Then we let it pop, don't let it go. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. He never gave nothing to me. Every time I turn around, cats got their hands out, wanting something from it. I ain't got it, so you can't get it. Let's leave it at that, cause I ain't with it. Hit it with full strength. I'm a jail, so I face the world like a girl in the bullpen. You against me against you. Whatever, whenever, you gon' do. I'm a wolf in sheep's clothing. Only that you know who can chill. Come back and get the streets open. I've been doing this for 19 years. Wanna fight me? Fight these tears. I put in work and it's all for the kids. But these cats done forgot what work is. They don't know who we be looking. They don't know who they see. First we gonna rock, then we gonna fall. Then we let it pop, don't let it go. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. First we gonna rock, then we gonna fall. Then we let it pop, don't let it go. Come on. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. D'écouter DMX, la nouvelle musique de Deadpool. Vous écoutez souvent du rap US, vous ? Juste vite fait, comme ça ?
Non, pas trop. Enfin, ça dépend.
Ouais, oui ou non ?
Non, pas trop.
Non.
Moi, je trouve ça d'une violence et inacceptable.
D'accord.
Et vous, madame, vous en écoutez beaucoup ?
Non.
J'imagine.
Bon, il n'y a que Eminem, ça passe encore. Mais...
Voilà, merci.
Ou du Dre, non ? Bon, ouais, on va arrêter, on est là pour parler de l'Europe. D'ailleurs, l'histoire de l'Europe, vous la connaissez un peu ? Pourquoi ça a été fait ?
Moi, je propose que Madame Planquette, prof d'histoire, puisse nous résumer un peu l'histoire de l'Union européenne et pas de l'Europe. Dis pas.
L'Union européenne, donc, qui n'est pas l'Europe, hein, bien différencier le continent européen et l'Union européenne, c'est une association entre différents États, donc du continent européen, qui a commencé à l'origine entre 6 États, France, Allemagne, Italie, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, par une association économique. C'était la Communauté européenne du charbon et de l'acier. C'était en 57 avec le traité de Rome, qui s'est ensuite transformée en Communauté économique européenne, la CEE, que les plus âgés de cette pièce connaissent.
Bah oui.
Et qui s'est successivement agrandie en rajoutant au fur et à mesure un certain nombre de pays. On est arrivé en 92 à 12 pays, et ces 12 pays ont signé le traité de Maastricht, donc Maastricht qui est une ville de Belgique, et ils ont institué l'Union européenne. Donc en fait, on ne peut pas parler d'Union européenne avant cette date de 92. Et l'Union européenne est plus qu'une communauté, qu'une association économique, puisqu'il y a vraiment une histoire de valeurs communes. Et l'Union européenne elle-même a continué à s'agrandir en 95 d'abord, et puis ensuite il y a eu en 2004 l'arrivée de 10 pays anciennement de l'URSS. Et le dernier arrivé, c'est en 2013, la Croatie. Donc actuellement, il y a 28 pays membres de l'Union européenne.
Et la Turquie alors ?
Alors la Turquie fait débat pour plusieurs raisons. Elle est candidate à l'Union européenne, à l'entrée dans l'Union européenne, mais donc son entrée fait débat pour plusieurs raisons. D'abord, il y a ceux qui se demandent est-ce qu'elle fait partie de l'Europe, puisque c'est une des conditions pour entrer dans l'Union européenne, c'est de faire partie de l'Europe. Donc la Turquie, ça fait débat pour cette raison, et puis aussi parce qu'il y a les problèmes de droits de l'homme, éventuellement, qui sont une des conditions aussi pour faire partie de l'Union européenne, puisque les valeurs de l'Union européenne, c'est droits de l'homme, c'est démocratie, et c'est aussi basé sur le libéralisme d'un point de vue économique.
Ok, alors je rappelle, on est avec Sarah, Clémence, Thomas et Madame Planquette, notre invité du jour. Alors, première question de la deuxième partie de notre émission. En tant que citoyen, presque citoyen européen, pour vous c'est dans 2 ans, quoi à perdre si le Brexit est instauré ?
D'abord, qu'est-ce que le Brexit ?
Ouais.
Le Brexit.
Bonne question.
Le Brexit, explique. C'est la sortie du Royaume-Uni de l'Europe, de l'Union européenne.
Bah moi, je trouve que en fait, ils passent leur temps à nous faire du chantage en disant dès qu'ils veulent pas accepter une loi ou une législation, en disant bah nous on fait différemment et de toute façon si vous n'êtes pas content, on sort. Donc c'est vrai que d'un côté, je trouve ça dommage qu'ils sortent parce que ils sont quand même riches les Anglais et qu'ils nous apportent un plus. Mais d'un autre côté, au moins, ils arrêteront de nous faire leur petit chantage et on sera définitivement tranquille.
Ouais, enfin, comme elle dit Clémence, en fait, le truc, c'est qu'ils n'ont jamais accepté ce qui faisait partie de l'Union européenne, comme par exemple l'euro. Les Anglais tournent à la livre, alors que dans l'Union européenne, normalement, c'est l'euro. Donc, en fait, c'est comme s'ils en faisaient partie sans vraiment en faire partie. Ils nous apportent leur richesse, ils nous apportent leur culture, etc. On dit, ouais, ils font partie de l'Union européenne. Mais finalement, en fait, ils ne se considèrent pas dedans, donc...
Ouais. Ils ont même changé l'espace Schengen, donc c'est vrai qu'on se dit pourquoi il y en aurait un qui serait différent. Je veux dire, la base de l'Europe, c'est qu'on mette tous les mêmes règles, et là...
On va passer à la deuxième question, je propose. Alors, Brexit, début de la décomposition de l'Europe, parce qu'on sait avec les crises qui sont encore présentes dans notre société, l'Angleterre qui va peut-être s'en aller de l'Union européenne, est-ce qu'on ne se demande pas... est-ce que c'est toujours de vigueur l'Europe ?
Bah, c'est vrai que si l'Angleterre part, d'autres pays voudront peut-être faire pareil. Et c'est vrai qu'on se dit bah, que tout seul, la France toute seule, elle peut rien. Enfin, elle peut pas faire grand chose, quoi. Je veux dire, c'est l'union qui fait la force. Et du coup, si tous les pays partent, bah, nous, on sera un petit pays, voilà. Enfin, alors que l'Europe, on est plus fort ensemble.
Moi, personnellement, je pense pas que l'Angleterre va lancer un élan de départ dans l'Union européenne, étant donné qu'en fait, il y a toujours eu une rivalité entre... Bah, je vais pas dire qu'ils ont toujours fait chier, mais... les Anglais, bah, ils ont toujours été un peu... toujours des têtes brûlées, quoi. Enfin, je sais pas. Et du coup, je sais pas si d'autres pays vont suivre cette mode-là de sortir de l'Union européenne pour être indépendant, je sais pas.
Et vous pensez qu'ils vont revenir ? Qu'ils vont s'en sortir sans être dans l'Union européenne ?
Ouais, franchement, ouais.
Certains pays, ça leur apporte un plus d'être dans l'Union européenne, comme la Grèce qui est en crise, si on n'était pas là pour l'aider, voilà. Et d'autres, enfin, comme l'Angleterre, je pense, ou comme l'Allemagne, à mon avis, elle pourrait bien s'en sortir toute seule. Mais l'Union européenne, ça donne plus de poids, quoi. On est quand même,
Le but quand ils l'ont demandé, c'était de faire partie de l'Union, et s'ils le demandent, c'est qu'ils en ont besoin.
Ouais.
Donc, puis ce serait pas juste de dire ouais, on va faire partie de l'Union européenne pour relancer nos finances, pour faire partie de quelque chose qui va nous relancer et apporter des richesses au pays. Et puis finalement, dès qu'ils s'en sortent, dire ah ben non, nous on veut plus faire partie de l'Union européenne. Enfin. Donc du coup, je pense pas qu'il y en ait qui voudraient ressortir, quoi. C'est juste les Anglais.
Dans le contexte actuel de des crises et puis de la mondialisation, quelle place pour l'Europe à l'avenir ?
Justement, en fait, je trouve que de base, l'Europe, c'est des pays qui se sont alliés pour être plus forts. Et donc, c'est devenu surtout pour le niveau économique. Et je trouve que ce serait bien aussi qu'on arrive à appliquer des lois sociales dans tous les pays. Parce que là, les différences de lois, ça fait que du coup, il y a certains pays qui prennent tout l'argent d'autres. Et en fait, je trouve qu'on devrait mettre un gouvernement unique pour toute l'Europe. Et faire un peu comme aux États-Unis, en fait, que chaque pays mette quelques lois, mais que les plus importantes soient votées au Parlement européen pour toute l'Europe. Et ils mettent un président européen unique pour tout le monde. Et parce que comme ça, on serait plus efficace. Parce que là, l'Europe, c'est bien beau, mais on n'avance pas, on n'arrive pas, tout le monde n'est jamais d'accord. Enfin, il y en a toujours qui sont contre. Et déjà, faudrait voter à la majorité et arrêter de faire à l'unanimité.
Il y a eu, il y a quelques années, une constitution européenne qui a été rédigée, qui a été proposée et qui a été refusée par vote par la population de l'Europe. Après, c'était à quelques années et on n'était pas tout à fait prêt à avoir ce principe de fédération comme il y a aux États-Unis. Donc ça a été proposé. Pour l'instant, chaque pays, en tout cas à l'époque, chaque pays était encore assez proche de sa propre... gouvernance.
Mais je pense que c'est les politiques qui veulent pas laisser leur place en disant si on en mettait qu'un grand président pour toute l'Europe, bah eux ils auraient moins leur petit pouvoir et puis le problème aussi c'est que ce soit pas un vote à la majorité mais c'est presque l'unanimité je crois. Enfin, il faut que tout le monde soit d'accord et du coup ça avance pas parce que il y en a toujours qui seront pas d'accord.
Oui, c'est le principe de démocratie aussi, il y en a qui sont d'accord et pas d'accord.
Oui,
et
mais justement faire à la majorité.
Après, mettre en place une fédération européenne, ça voudrait dire changer 1000 ans d'histoire, 1000 ans de nations qui existent depuis... C'est dur de changer les habitudes.
Je pense que chaque pays pourrait garder ses valeurs, mais en étant quand même... en obéissant à l'Europe, parce qu'on serait plus fort. Parce que là, l'Europe, c'est plutôt un nom qu'autre chose. On fait pas grand-chose.
Il y a beaucoup de choses qui sont dirigées par l'Union européenne.
Par exemple ?
Il y a beaucoup de règles, même au niveau de la justice. Je ne sais plus quand exactement quelqu'un qui avait fait appel à la Haute Cour européenne de justice, puisqu'il n'était pas d'accord avec le jugement que la justice française avait fait. Donc, elle a pu aller au-delà. Vous avez de nombreuses aides économiques européennes qui, du coup, sont régies par l'Union européenne. Ça paraît logique que la personne qui donne l'argent... contrôle ce qu'on fait avec. En fait, finalement, l'Union européenne, on la voit pas beaucoup, mais elle est là. Elle est là beaucoup.
Right.
Et on revient sur cette troisième partie d'émission, qui est la dernière. Après, on va se quitter. Il va rester encore 7 minutes d'émission. Alors, trois questions. Les migrants affluent en Europe à la recherche d'une vie meilleure. Comment faire pour essayer de rétablir la situation ? Vous avez des idées ?
Bah, je pense que pour régler le problème, il faudrait régler le problème à la source. Donc déjà, essayer de régler le problème dans ces pays-là et pas attendre qu'ils viennent et dire « Ah bah mince, ils sont là, qu'est-ce qu'on en fait ? On les renvoie ou on les laisse là ?» Bah, de toute façon, ils sont là. Donc maintenant qu'ils sont là, je pense qu'il faudrait essayer de les intégrer et de mettre par exemple un quota de migrants dans chaque pays européen pour que ce soit un peu plus juste, parce que la Grèce qui a tout, la France qui a dit qu'elle allait en accueillir, mais on attend toujours qu'elle les accueille. Enfin, ça n'avance pas.
Ouais, c'est déjà mis en place, c'est juste qu'ils veulent pas rester en fait.
Chaque pays de l'Union européenne est censé accueillir un certain nombre de migrants.
Ouais, mais pour l'instant, sur le bilan, enfin, j'avais vu ça.
Ouais, c'est juste qu'ils veulent pas rester en France en fait, ils veulent tout de suite partir
en Angleterre.
En Angleterre, parce que c'est plus simple pour eux.
Je précise aussi, pendant la musique, on a accueilli un nouveau chroniqueur, Loïc. Bonjour.
Tu te souviens de mon prénom aujourd'hui ?
Non, mais... C'était vendredi un accident.
13. C'est vendredi 13, cherche pas.
Je crois.
Exactement, on croit au surnaturel ici. Loïc, bonjour.
Bonjour.
Alors, tu vas nous présenter tes idées de la troisième partie, hein ? Est-ce que tu penses toucher à l'espace Schengen pour essayer de rétablir la situation ?
Moi, l'espace Schengen, c'est principalement... Il est utile à déjà beaucoup de gens, rien que pour voyager. Comme nous, quand on va à l'étranger, par exemple, on va en Angleterre, pas en Angleterre, c'est un peu compliqué pour ça, mais juste en Espagne ou en Allemagne ou d'autres pays européens, on peut voyager très facilement. Comme là, je suis allé en Allemagne avec le lycée récemment, on avait juste une carte d'identité et une carte d'assurance maladie et c'est tout. Enfin, on pouvait voyager comme on voulait. Mais après, nous, ça ne touche pas parce que nous, on n'a rien à faire de mal. Mais après, pour d'autres circonstances, je sais pas. C'est assez compliqué de répondre à cette question.
Deuxième question dans cette troisième partie. Crise économique, est-ce que c'est la faute à l'euro ? L'euro, la monnaie ?
Bah en fait, c'est pas vraiment l'euro en lui-même. C'est les personnes qui ont utilisé l'euro qui ont pas mal fait. Mais surtout, il y a les JO en Grèce, à Athènes en 2004. En fait, parce que normalement, quand on fait des Jeux Olympiques, on prévoit tout pour les reconvertir. Par exemple, on a eu les JO à Londres, la piscine olympique c'est devenu une piscine normale, le village olympique c'est devenu un hôtel. Enfin vraiment, on a dû tout reconvertir dans la vie entre guillemets normale. Alors qu'à Athènes, tu peux y aller maintenant, tu verras. Moi j'ai vu des images, c'était genre le bassin pour les courses de canoë, il y a des mauvaises herbes, il n'y a rien. Enfin,
il y a un gros problème d'organisation base en fait.
Il y a un très gros problème à la base. C'est ça vraiment qui nous a mis entre guillemets là où on en est maintenant. C'est vraiment qu'on n'a pas su voir plus loin, et c'est ça qui nous a fait défaut.
Ouais, je pense que c'est ça le problème, c'est tous les sous jetés par les fenêtres, et qui, enfin, je veux dire, c'était des dépenses inutiles, et la manière, enfin, rien que pour les présidents, ils voient pas à long terme, à chaque fois, c'est, ah ben moi, je fais mon petit mandat, je vais vous mettre quelques aides, et puis après, ils voient pas plus loin, quoi.
Et même par mandat, on peut pas vraiment... 5 ans, c'est assez court.
C'est trop court.
C'est trop court pour faire vraiment tout ce qu'on a envie de faire, même au niveau européen.
Les deux premières années, ils remercient leurs copains. Les deux dernières, ils préparent les autres élections. Bah, il reste plus qu'un an pour faire quelque chose.
C'est un peu court.
Ouais.
Après, il faut faire attention. La crise économique mondiale actuelle a démarré en 2008 aux États-Unis.
Les subprimes.
Avec la crise des subprimes. Donc, qui ait eu l'euro ou qui n'ait pas eu l'euro, la crise économique, elle est là pour tout le monde. Alors effectivement, nous, en Europe, on a peut-être un petit peu plus de mal à s'en sortir qu'ailleurs. Mais ce qui est sûr, c'est que si on avait chacun notre monnaie nationale, ce serait encore plus compliqué pour s'en sortir. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, l'Union fait la force. Et là, on a quand même plusieurs grands pays économiquement relativement forts. L'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, qui pour l'instant est toujours là. Qui sont là dans l'Union européenne. Et donc c'est ensemble qu'on peut réussir à sortir.
Et d'ailleurs, toujours par rapport à l'euro, il y avait Arte qui avait fait une sorte de faux reportage sur ce qui se passerait si on prenait le franc à la place de l'euro.
Et alors ?
Et alors, le franc baissait de jour en jour et on s'en sortait pas. Donc,
Mais ça, c'est ce que propose Marine Le Pen. Mais de toute façon, elle a choisi l'euro comme bouc émissaire et puis elle cherche plus loin, quoi.
C'est ce que font tous les politiques. Ils cherchent toujours un bouc émissaire et puis ils critiquent. Mais bon.
Sinon... Ça s'appelle de la démagogie.
Merci, madame.
On a appris un mot aujourd'hui. Bravo.
Que je serais moins bête.
Exactement.
Aussi pratique que Jobastre.
Jobastre, on le rappelle, ça veut dire
abruti, non?
Exact.
Ah oui.
Ah, quelle mémoire, Loïc.
Première L, s'il vous plaît.
Bon, je vous propose qu'on attaque la troisième question de la troisième partie, la dernière. Comment expliquer la montée des nationalistes en Europe? Puisque il y a eu les nationalistes en Allemagne, en France il y a eu Marine Le Pen. Il y a la montée des nationalistes commence à arriver à presque tous les pays d'Europe. Comment l'expliquer?
Déjà, on va commencer par la base. On va repartir un peu en arrière. Madame Planquette peut-être m'appuyer sur ce niveau-là. Quel est le plus gros nationalisme qu'on ait vu dans le monde? C'est forcément Hitler. Ça a commencé comment?
Je suis en plein. Ça a commencé avec une crise et vu que les gens étaient tous au chômage, il a dit.
Je parle, t'es gentil, merci. On avait une crise économique. Tout le monde n'était pas content. Et qu'est-ce qu'on a maintenant? La même chose. Coïncidence? Je ne crois pas.
Comme dirait Monsieur Petit, Hitler a voulu proposer.
Monsieur Petit qui est.
Prof d'histoire, oui, il nous a dit qu'en fait Hitler avait voulu proposer une troisième solution qui avait d'un côté le capitalisme qui n'avait pas marché, d'un côté le communisme qui ne marchait pas, du coup lui il était la troisième voie qui était l'extrême droite. C'est exactement pareil aujourd'hui.
Et ça n'a pas marché.
Quelles conséquences de la montée des nationalistes en Europe d'après vous?
Bah déjà, je voudrais revenir au franc, donc déjà au niveau compétitivité sur le marché.
Ça ira pas de revenir au franc. Donc
on va avoir plus de chômage, on va toujours pas mieux, et on va peut-être sortir de l'Europe aussi, ça ira encore moins, donc ça va aller décrescendo jusqu'à ce qu'on touche le fond, et je crois même qu'on va creuser un petit moment.
Ouais, puis quand ils veulent toucher à l'espace Schengen, encore question économie, le tourisme, il est mort.
Aussi.
Surtout pour notre région, parce que c'est celle qui tournait vers l'extérieur, on est à côté de la Belgique, à côté de l'Allemagne, Luxembourg, l'Angleterre, enfin je veux dire... on est la région où il y a le plus de commerce. Donc,
Les différents fonds vont être dispatchés, parce que tout ce qu'on avait avant dans la culture et l'éducation va sûrement aller ailleurs.
Ouais.
Seulement, c'est bien beau de penser à ça, mais c'est déjà les générations de demain. Quoi, donc,
Je pense que le problème de base, en fait, serait de mettre plus d'argent dans l'éducation. Parce que si les jeunes étaient plus éduqués, ils finiraient peut-être pas... Pas nous faire des attentats, quoi.
Mais...
Ouais, souvent, le problème, c'est la peur. Quand on a peur, on se réfugie vers quelque chose qu'on connaît. Donc là, on est dans une crise économique, comme il y a eu effectivement Loïc en Allemagne dans les années 30. C'était une crise économique. Les gens avaient peur. Donc, on se tourne vers ce qui nous paraît quelque chose qu'on connaît, quelque chose qui est proche de nous, en l'occurrence, la nation. Notre nation, en se disant on est chez nous, on est tranquille et les autres on s'en occupe pas. Et c'est souvent ces situations de crise qui provoquent ce sentiment de se refermer sur soi-même et la démagogie utilisée à bon escient.
Démagogie.
Je vais vous l'apprendre ce mot. Peut déplacer les foules.
C'est quand même moins beau que Jobastre, démagogie, moi je dis.
Hitler était un très très grand orateur.
Ouais. Oui. Enfin, il a raté son bac, il a raté les beaux-arts.
Ouais, il parlait très bien.
C'est toujours ça.
Et est-ce que vous avez une idée de solution pour l'Europe? Enfin, je veux dire, personnellement, vu que vous êtes prof d'histoire, je veux dire, vous savez déjà ce qui s'est passé. Donc, qu'est-ce que vous savez? Enfin, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter que... Par exemple, le FN passe ou qu'est-ce qui pourrait...
Aller voter. Tout le monde.
Beaucoup votent par dépit. Ils disent, bon, ça marche pas.
Ouais,
ils
votent ce qui n'a pas encore échoué, en fait.
Ouais,
mais au moins, s'il y a quelque chose que vous voulez à tout prix éviter, il y a toujours moyen de dire, je ne veux pas cette personne-là.
Ça s'est passé en 2002, je crois, c'était avec Jean-Marie Le Pen.
Oui, qui était passé au second tour des élections présidentielles.
N'est-ce pas?
C'est sur cette moche imitation de Loïc que nous allons terminer l'émission. Hein.
Ouais. Je te prends dehors quand tu veux.
D'accord.
Bon bah, si allez tous voter.
Ouais, voilà.
Petit message aux auditeurs.
Conclusion de l'émission, allez tous voter.
Battez-vous aux urnes.
Battez-vous aux urnes si vous voulez.
Faites le bon choix.
Exactement. Je vous propose de réécouter l'émission sur le site internet de PFM. Vous pouvez aussi proposer des sujets d'actualité ou commenter notre émission sur Débat Actualité sur Facebook. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Le thème de la semaine prochaine, ça sera le féminisme. Ça sera Elisa qui présentera. À la semaine prochaine.